Bonjour, bienvenue à La Voix de la librairie, une émission diffusée sur les ondes de CKIA le mercredi à 15h30 et enregistrée le lundi soir à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec, d'où le nom de l'émission La Voix de la librairie. Mon nom à moi est Catherine Doré et je suis l'animatrice de l'émission et je suis en compagnie de L'Homme qui a vu l'Homme à la mise en onde et au choix musical. Bonjour L'Homme qui a vu l'Homme.
Bien, bonsoir Catherine.
L'Homme qui a vu l'Homme, on a perdu quelqu'un d'important le mois dernier. Bernard?
Ben oui, notre conteur en résidence, finalement. Alors,
Bernard Grondin, oui, qui est conteur et qui nous a quittés, donc, le mois dernier. Je dois dire qu'il va beaucoup nous manquer à tous, à tout le monde ici à la librairie. Ce mois-ci, le thème de l'émission, c'est l'Occident. L'Occident, attaqué de toutes parts, jugé souvent responsable de tous les maux, on dit que l'Occident a plutôt mauvaise presse ces temps-ci. Surtout dans les pays qui ne bénéficient pas de ces largesses. Et puis même ici, en Amérique, et chez nos cousins en Europe, on ne se gêne pas souvent pour critiquer durement les valeurs présentes et les erreurs passées de l'Occident. Donc, on va discuter un peu de tout ça durant l'émission. Et avec quelques invités aussi en dernière partie de l'émission, on va avoir une discussion, une table ronde. Mais on va commencer sur une note un petit peu plus légère. On va commencer avec quelqu'un qui écrit une chronique dans Droit de parole depuis plusieurs années. Probablement que certains d'entre vous, sinon plusieurs d'entre vous, connaissent peut-être déjà les Renauderies. Alors, on est très contents ce soir d'accueillir Renaud Pilote et sa Renauderie du jour qui s'intitule « La poubelle ». Et pour l'introduire, L'Homme qui a vu l'Homme, qu'est-ce que tu as choisi comme pièce?
Bien, une pièce qui est justement titrée « Poubelle ». C'est de Serge Reggiani. Alors, on va écouter ensemble ce qu'il a à nous raconter sur le contenu d'une poubelle.
Poubelle, poubelle, photosoupir, déclic, flashback, souvenir. Poubelle, poubelle, pétale séchée, la crème d'amour sucré, elle a tourné. L'étiquette métro et son adresse au dos, y a plus personne à ce numéro. Ce petit bout de crayon, tous ces papiers de bonbons qui traînent dans une boîte en carton. Poubelle, poubelle, sans les relire, tous ces aveux sans avenir. Poubelle, poubelle, lâcher du lest, aller-retour Paris-Brest, c'est tout ce qui reste. C'est quoi ce foulard, ce briquet de bazar, ce chapeau jamais mis, ce costard, des boîtes à musique, morceaux de mécanique, en vrac dans un sac en plastique. Poubelle, poubelle, laissez passer tout ce passé dépassé. Poubelle, poubelle, cérémonie, on pleure un peu, on oublie et c'est fini.
La poubelle. C'est curieux comme tous ne voient pas la poubelle du même œil. Hein? Pour l'adolescent en crise, Elle est ringarde, hypocrite. Le monde est devenu un vaste dépotoir, anyway. Elle est moralisatrice, bref, bonne à flamber. Pour l'itinérant, elle est source de revenus, de chaleur. Elle est cette amie qui l'attend nuit et jour au coin de la rue. Pour les boires, elle est routinière, inodore, et toujours un peu trop pleine. Pour l'étudiant en sciences sociales, elle est la surconsommation, la corne d'abondance, et surtout très économique. Pour le maire, elle est le symbole de sa réélection, et c'est aussi une alvéole essentielle dans les poubelles, dans les poumons de sa ville. Pour la mère, elle est la principale raison pour laquelle les pique-niques au parc en famille sont possibles, littéralement. Pour la radio, elle est sa honte, son fond du baril, sa liberté, son cancer. Quant à l'homme d'affaires pressé, elle est pour lui facultative. Et si elle n'est pas devant lui à la seconde, elle n'existe tout simplement pas. Mais cette poubelle, qu'en général on ne remarque dans le décor que si on la cherche pour s'en servir, je serais tenté de dire qu'on la tient parfois un peu trop pour acquis. Imaginons avoir été contraint d'enlever les poubelles du centre-ville pour, disons, un après-midi, une sorte de journée sans ma poubelle impromptue. Sans trop le voir venir, nous ressentirions à la suite d'une barre de chocolat innocemment achetée, une pointe d'inquiétude, un chatouillement de panique, jumelé avec en bouche un petit goût de « n'y revenez pas ». Le déchet à la main, nous continuerions notre conversation de pause Kit-Kat, comme si de rien n'était, jetant des regards furtifs aux alentours, incrédules à l'idée qu'elles aient toutes disparu. Avoir été seuls, nous ne nous serions pas trop posé de questions. D'un coup de pied, nous aurions envoyé au diable cette boulette d'aluminium dans une ruelle sombre. Mais la ville est moderne, malheureusement, avec ses caméras de surveillance, sa présence policière massive, etc. Et l'interlocuteur du moment est justement un écolo formé à la bonne école. Non, ce papier froissé, nous sommes malheureusement collés avec dans la poche arrière de nos jeans. Il y a pire, j'en conviens, mais ce serait tout de même un moment, un tantinet dégueu. 2 heures plus tard, cependant, on constaterait que notre peur de représailles n'avait été qu'une chimère personnelle découlant d'une naïveté risible, parce que l'accumulation d'ordures fraîches sur les trottoirs s'avérerait flagrante. Les citadins n'auraient pas perdu de temps à s'adapter à leur nouvel environnement. Des monticules multicolores s'étant formés ici et là, des gommes à mâcher sous les semelles s'étant engluées sans crier gare. Rebutant, nous dirions-nous, navrés. Et cette odeur qui ne ferait qu'empirer. Mais, chère Catherine, laissons là ces vaines rêveries. Nous avons assez de cauchemars à gérer concernant la gestion des déchets à l'échelle mondiale pour songer à une place Jean-Cartier sans poubelle municipale. Les poubelles sont là, elles ne partiront pas. C'est bien la dernière chose que nous chérirons, en fait, lorsque le fleuve débordera de plastique. Nous nous réfugierons alors, l'ado, l'itinérant, les boires, le maire, etc., et compagnie, sur les plaines, pour assister au spectacle du grand débordement, la paille au bec et les pieds dans l'herbe tendre, non loin d'une poubelle verte.
Merci beaucoup, Renaud. Merci pour ce texte plein de réflexions et même, je dirais, de philosophie.
Oui, oui, oui. Je regarde ce qui m'entoure et j'en vois de la philosophie.
Je pense qu'on va y prendre goût. Tes textes se trouvent peuvent être lus dans un livre, je pense.
Oui, j'ai fait un livre sur les premières chroniques que j'ai faites dans Droit de parole.
Okay.
Les 30 premières, je pense. Ça fait 2 ans de ça, déjà. Ça s'appelle Les Renauderies. Puis, dans le fond, c'est le tome 1, étant donné que là, j'en ai écrit plusieurs, peut-être une vingtaine depuis. Donc, okay. Il va sûrement en avoir un dans le courant de l'année 2015.
Un deuxième, un Renauderie numéro 2.
Un Renauderie 2. donc, c'est ça, dans la suite du premier. Mais en même temps, je pense que mon écriture s'est transformée un peu avec le temps. Puis c'est ça, dans le fond, mais en même temps, c'est la continuité. Là. C'est tout le temps des aspects un peu banals qui nous entourent dans une ville. Puis c'est ça, avec mon regard un peu philosophique et
tout
amusé.
Tout à fait, oui. Bien, merci beaucoup, Renaud. On va surveiller ça. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de te réentendre à l'émission.
Merci de l'invitation.
Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Avant de tomber dans le vif du sujet, donc avant de parler de l'Occident comme tel, on a comme un petit peu comme un hors-d'œuvre ou un appetizer, si vous voulez, on va parler de culture autochtone et particulièrement de la vision d'un occidental sur le mode de vie des sauvages d'Amérique en compagnie de Roxane. Et pendant que Roxane va prendre place, on va écouter une pièce musicale, L'homme qui a vu l'homme.
Oui, une pièce de Chloé Sainte-Marie, qui était la compagne du cinéaste Jules Carle et qui s'implique beaucoup pour la cause autochtone. Alors, c'est une pièce que plusieurs connaissent, mais qui est très, très belle. Ça s'appelle Michapan Nitassinan.
Oh,
on écoute ça.
Merci.
Quaticook, Mazaklan, Manitou, Mégantic. Manouan, Ivoujivik, Maskouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Témiscamingue, Copan, Chibougamau.
Alors, bonjour Roxane.
Bonjour Catherine.
On va donc parler d'un auteur qui s'appelle François Lafitau et qui a écrit un livre qui s'appelle « Mœurs des sauvages américains ». D'abord, ça a été écrit à quelle époque, ça?
Bonne question.
je te prends par surprise.
Ben, en fait, c'est 16-17e siècle, là, je dis ça, okay. Parce que... Non pas François, mais Joseph.
Oh,
François
j'ai Lafitau, le mauvais nom.
Qui est né en 1638 et mort en 1746. Donc, je ne sais pas exactement à quelle période de sa vie il a écrit, mais sans doute autour du début du 18e siècle environ. Là.
OK, donc on est vraiment là au début, tout début de la colonisation de l'Amérique. Là.
Oui, c'est pas un des premiers, là, parce que lui-même est venu rejoindre des missionnaires qui étaient déjà installés, mais
c'est
bon,
ça.
Quand
Est-ce
même...
Est-ce qu'il fait partie de la correspondance des Jésuites?
Non, parce que c'est un document sur lequel il s'appuie, qu'il cite, là, parce que c'est quelqu'un d'un érudit quand même, qui a une culture très vaste,
okay.
Et qui a fait des recherches pour, complémenter, ajouter à ce qu'il pouvait lui-même avoir appris sur le terrain, pour connaître, pour faire vraiment un portrait très vaste des mœurs des Amérindiens en Amérique, mais, okay. Même Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis, tout ça. Là.
Okay.
Donc, il y a une culture livresque en plus de sa culture de terrain, parce que lui était en contact plutôt avec la culture iroquoise, en fait.
OK. Donc, c'est véritablement un travail un peu d'ethnologue, de description des mœurs et de la manière de vivre.
Exact. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on le considère comme un peu le... un des précurseurs de l'ethnographie moderne.
Ah oui?
Donc oui, c'est quand même un personnage important en ce sens-là.
Ça veut dire que le ton était quand même différent de ce qu'on est habitué de lire à cette époque-là. Parce que le ton est habituellement assez condescendant. Hein? Quand on lit, entre autres, la correspondance des Jésuites, là, c'est...
Ah, c'est possible, c'est un document que je n'ai pas lu encore, donc je ne pourrais pas comparer.
Parce qu'en fait, dans ce que j'ai lu, c'est qu'on décrit toujours en comparaison avec le mode de vie occidental. On dit toujours, eux, ils font ça, nous, on fait ça, eux, ils font ça. C'est toujours en train d'être dans une idée de comparatif, en fait.
Oui, oui, oui. Ben, ce qui change un peu le point de vue avec la phyto, c'est que son point de comparaison, ce n'est pas avec l'Occident, du moins pas l'Occident qui lui est contemporain, mais avec les mœurs de ce qu'il appelle les premiers temps, c'est-à-dire ce qu'il va trouver, par exemple, des descriptions chez Hérodote, chez les anciens, chez Pline. Okay. Puis son objectif, c'est en quelque sorte de montrer, de faire un peu des parallèles, de tracer des ponts entre ce qu'il voit chez les peuples, ou alors ce qu'il lit à propos des peuples amérindiens, et des pratiques semblables chez les peuples égyptiens, grecs, perses, pour montrer une espèce de filiation commune, pour montrer une origine commune aussi dans la perspective de la Genèse, puisque lui, c'est un homme religieux à la base, un jésuite.
Oui.
Et puis, pour aussi un peu redorer le blason des sauvages, en quelque sorte, là, pour montrer que ce qu'ils font, c'est pas si aberrant, puisque nos propres ancêtres, à nous, le faisaient il y a quelques centaines de milliers d'années.
OK, donc c'est un ton vraiment différent de la plupart des écrits qu'on connaît.
Sans doute aussi la raison pour laquelle c'est passé à l'histoire en tant qu'œuvre ethnographique, alors que ce n'est pas nécessairement le cas de ce qu'ont pu écrire d'autres missionnaires en place. Là. Oui. Puis aussi le souci, comme je disais au départ, un peu scientifique, là, de comparer la culture livresque qui est derrière son travail, puis la volonté d'objectivité quand même qui donne à tout ça. Là, c'est assez étonnant de voir à quel point ces descriptions, même quand on aborde des sujets qui, pour un religieux de l'époque, pourraient être assez délicats, ces descriptions demeurent très, très objectives. Là, je vous avais sélectionné un passage
en ce sens-là. Oui, ce serait intéressant d'entendre ça.
Qui est un passage assez fort quand même. Ben, il y a plusieurs passages très forts, il faut dire. Mais celui-là concerne les supplices des esclaves dans l'Amérique du Nord, là, qui appellent septentrionale. Donc, c'est une description pas très tendre là, de comment les Amérindiens faisaient subir différents supplices aux prisonniers qui donnaient leurs esclaves et tout ça, jusqu'à les mettre à mort, mais dans des cérémoniales qui duraient des heures et des heures. Là, ils leur arrachaient les doigts, un enfant. Il décrit ça quand même, mais de manière très objective, puis justement sans le jugement auquel on pourrait s'attendre de la part de...
C'est l'extrait que tu nous as choisi?
Oui, en fait, je n'ai pas choisi l'extrait où il décrit là, les pires supplices possibles.
Ça sera pas trop dur.
Je pense que ça aurait plu beaucoup à David, mais peut-être pas aux autres auditeurs. En fait, une fois la description terminée, il ajoute « Ainsi finit cette sanglante tragédie pendant laquelle je ne sais ce qu'on doit admirer davantage, ou l'excès de la brutale férocité de ces inhumains, qui traitent avec tant de cruauté de pauvres esclaves amenés quelquefois de si loin qu'ils ne sauraient être coupables en rien envers leurs meurtriers, ou bien la constance de ces mêmes esclaves, lesquels, au milieu des tourments les plus affreux, conservent une grandeur d'âme et un héroïsme qui a quelque chose d'inimaginable. Cet héroïsme, est réel, et il est l'effet d'un courage grand et noble. Ce que nous avons admiré dans les martyrs de la primitive Église, et qui était en eux l'effet de la grâce et d'un miracle, est nature en ceux-ci, et l'effet de la force de leur esprit. Les sauvages, ainsi que je l'ai déjà fait voir, semblent se préparer à cet événement dès l'âge le plus tendre. On a vu des enfants accoler leurs bras nus l'un contre l'autre, mettre entre deux des charbons ardents, se défiant à qui soutiendrait la gageure avec plus de fermeté et la soutenir avec constance. J'ai vu moi-même un enfant de 5 ou 6 ans, dont le corps avait été brûlé par un accident funeste d'eau bouillante répandue sur lui, qui toutes les fois qu'on le pansait, chantait sa chanson de mort avec un courage incroyable, quoiqu'il souffrît alors de très cuisantes douleurs. Je ne sais si l'on doit appeler barbare des courages aussi mâles, mais je sais qu'on trouvera plus d'exemples de ces courages intrépides chez ceux qu'on traite de barbares que chez les nations policées à qui les arts et tout ce qui sert à les polir et à les humaniser procurent une abondance et une douceur de la vie, laquelle ne sert qu'à les amollir et à les rendre lâches.
C'est intéressant. On sent dans le ton qu'il y a comme une admiration une admiration envers les populations qui l'observent.
Oui, tout à fait. Puis ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de jugement de valeur porté a priori. Il y a plutôt donc une description de ce qu'il voit ou de ce qu'il peut recenser dans les ouvrages, avec ensuite une comparaison, mais qui est souvent plutôt désavantageuse pour les accidentaux.
Oui, oui, c'est ça.
C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a d'autres également. Puis dans l'extrait qui suit, il va comparer ces exemples de courage-là à certains rituels qu'on voit bon, chez Alexandre le Grand, chez les anciens, parce qu'il y a toujours ce désir de comparaison avec ce qu'on retrouvait chez les anciens peuples.
Chez les anciens peuples,
pour un peu relativiser, en quelque sorte, le jugement qu'on pourrait porter, donner une valeur ajoutée. Il aurait pu, disons, insister sur l'aspect très barbare des traitements, mais il préfère insister sur le courage que ça,
oui, c'est ça,
que ça suppose, oui, oui, puis la constance.
Il y a un choix là, qui est fait.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a aussi des descriptions, disons, plus quotidiennes?
Oui, il y a aussi de la vie quotidienne même... des différents aliments qu'ils utilisaient, des différentes plantes qui étaient en usage à l'époque en Nouvelle-France. C'est une description qui est très collée, disons, sur la réalité, les mœurs aussi de mariage, les mœurs sexuelles, enfin, des sujets dont on pourrait s'attendre à ce que, de la part d'un religieux, encore une fois, ce ne soit pas des sujets faciles à traiter, mais qu'il aborde toujours avec un certain recul là, puis une objectivité qu'on pourrait presque qualifier de scientifique. Là.
Est-ce qu'on peut en avoir un extrait?
En fait, j'avais choisi un autre extrait qui n'est pas tant, disons, de la vie quotidienne, mais plutôt général. J'ai tenté plutôt, compte tenu du thème de l'émission d'aujourd'hui, de choisir des extraits qui illustraient, disons, cette manière de porter un jugement tempéré sur, puis loin de la critique habituelle, justement.
Oui, oui.
Puis cet extrait-là intervient plutôt au début de l'ouvrage, quand Lafitau fait une description générale du caractère des sauvages. Justement, où il critique un peu l'idée préconçue. Là, il commence en disant « L'idée qu'on se formait autrefois des sauvages était d'une espèce d'homme nu, couvert de poils, vivant dans les bois, sans société comme des bêtes et qui n'avait de l'homme qu'une figure imparfaite. On était alors dans une grande illusion. Les sauvages, à l'exception des cheveux et des sourcils, que quelques-uns même ont soin d'arracher, n'ont pas un poil sur le corps, et s'il leur en vient quelqu'un, ils en ont de bonne heure jusqu'à la racine. » La première fois qu'ils virent les Européens, leur étonnement fut incroyable et la longue barbe que ceux-ci nourrissaient en ces temps-là les leur fit apparaître étrangement laids. On dit néanmoins qu'outre les Esquimaux dont j'ai déjà parlé, il y a encore deux ou trois nations d'Amérique méridionale qui ont de la barbe, mais ces nations sont peu communes. Ils naissent blancs, comme nous. Leur nudité... Les huiles dont ils se graissent, le soleil et le grand air, les hâles, leur hâle le teint dans la suite, mais du reste, ils sont grands, d'une taille supérieure à la nôtre, bien faits, bien proportionnés, d'un bon tempérament, lestes, forts et adroits. En un mot, pour les qualités du corps, ils ne nous cèdent en rien, si même ils n'ont sur nous quelque avantage. Puis ensuite, il continue en décrivant les qualités morales, en quelque sorte, donc de caractère, plutôt.
Oui,
là, puis,
oui, ça serait intéressant.
Puis il met donc en relation leur génie, leur esprit qui juge davantage favorable et les traits, disons, communs, caractéristiques de paresse ou de lâcheté qu'on va souvent porter là, envers les Amérindiens.
Okay.
Mais en tentant, en quelque sorte, de faire la part des choses, puis il termine en disant... Nous serions sans doute plus heureux si nous avions comme eux cette indifférence qui leur fait mépriser et ignorer beaucoup de choses dont nous ne saurions nous passer. Peut-être aussi que leur indigence est l'effet de cette paresse naturelle qui les rend si indolents qu'ils aiment mieux se priver des mêmes avantages qu'ils nous envient que de se donner la peine nécessaire pour se les procurer. Quoi qu'il en soit, depuis le temps qu'ils ont eu commerce avec les Européens, l'utilité qu'ils en ont pu retirer ne leur a point fait secouer leur fainéantise. Ils ont préféré de rester attachés à leurs manières anciennes et ils ont moins gagné à céder des arts qui pouvaient les mettre à leurs aises et leur faciliter les commodités de la vie qu'ils n'ont perdu à imiter nos vices.
On sent qu'il y a une critique de l'Occident derrière ça. Est-ce que c'est possible?
J'ai l'impression
que je retrouve un petit peu l'esprit de Jean-Jacques Rousseau et du bon sauvage.
Il y a un peu de ça, effectivement, oui.
En effet, oui, c'est ça. C'est comme s'il appréciait davantage les qualités des indigènes que de la société. C'est comme si la société, dans sa tête, pervertissait l'être humain.
Il arrive, disons, aussi à faire la part des choses. Là. Il ne dresse pas un portrait, complètement louangeur là, du bon sauvage non plus. Mais il tombe pas non plus dans les clichés très connus. Donc, il essaie, ouais, je dirais, de faire la part des choses puis d'avoir un portrait là, qui est fidèle à la réalité, parce que c'est une réalité qu'il a connue. Donc, c'est quand même un avantage de son témoignage comparativement à d'autres, puisqu'il a été sur place, il a maîtrisé la langue.
Est-ce que tu sais combien de temps il a été en Amérique?
C'est une bonne question. Quelques années, mais pas, à ma connaissance, si je me souviens bien, pas énormément longtemps. Parce qu'il voulait revenir, en fait, pour terminer, mais il n'a pas pu, parce que, bon, il était appelé à d'autres travaux en Europe.
OK.
Donc, je dirais là, quelques années, là, peut-être 4-5 ans environ. Mais
écoute, je te remercie beaucoup. C'est un auteur que je ne connaissais pas et les gens qui s'intéressent à la question, on le leur conseille. Est-ce qu'il écrit plusieurs ouvrages?
Rien de très marquant, disons, là, mémoire sur le ginseng, qui est souvent cité, parce qu'il y a un de ceux qui a découvert là, que c'est une plante qui existait en Amérique, en plus d'en Asie.
OK.
Puis certains autres ouvrages d'histoire, mais qui ont été moins marquants là, que celui-là, qui est vraiment considéré comme un peu à l'origine là, de l'ethnographie moderne, puis qui contient une tonne de descriptions absolument fascinantes, là, notamment du festin des morts, des rituels du gouvernement chez les Amérindiens. Tout ça, c'est vraiment une lecture très fascinante.
Bien, merci beaucoup. C'est donc Joseph-François Lafiteau.
Exact. Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps.
Merci, Roxane. On va faire une pause pour permettre à Sequoia de diffuser les indicatifs. On vous revient tout de suite après. On est de retour pour continuer l'émission La Voix de la librairie. En deuxième partie de l'émission, on va s'attarder un petit peu au concept même d'Occident. Quand on parle d'Occident, dans la tête de beaucoup de gens, les gens pensent d'abord aux États-Unis. La culture occidentale, pour beaucoup de monde, c'est Michael Jackson, Madonna, c'est les films hollywoodiens, c'est Coca-Cola. Or, il se trouve que l'Occident, ce n'est pas d'abord les États-Unis. Ce sont les pays d'Europe occidentale. Alors donc, on a choisi une pièce appropriée pour parler de l'Europe occidentale. Il s'agit, l'homme qui a vu l'homme, de l'hymne européen.
Oui, qui se trouve à être l'ode à la joie de M. Beethoven, que l'on connaît bien. Alors, c'est l'interprétation officielle de l'hymne, parce que ça a été, c'est ce qu'on trouve sur le site de l'Union
européenne.
C'était fait par l'Orchestre d'harmonie des jeunes de l'Union européenne en question.
Parfait, on écoute ça. Alors, c'était l'hymne de l'Union européenne. Alors, pour parler, pour introduire notre discussion avec mes invités sur les valeurs occidentales, j'ai trouvé un texte dans la revue Sciences humaines, un texte écrit par Laurent Testeau, publié en 2008, qui s'appelle « Comprendre l'hégémonie occidentale ». Alors, il a fait une revue de littérature de tous les penseurs qui ont cherché à expliquer les raisons pour lesquelles l'Europe occidentale, donc une partie relativement petite de la planète, a réussi à dominer politiquement, économiquement et militairement le monde du 15e au 20e siècle. On ne parlera pas du 21e, c'est un petit peu trop tôt et on ne connaît pas le futur. Alors, ils se sont demandé si ce fait tenait du hasard, de la prédestination ou de raisons objectives. Et il y a donc de nombreux auteurs qui se sont penchés sur cette énigme. Un premier auteur d'abord, il s'agit de Jared Diamond, qui est un biologiste californien. Il a écrit un livre qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés ». Et la théorie qu'il expose, c'est que, en fait, la nature distribue inégalement ses bienfaits. Ce qu'il nous dit, c'est que les différences entre les sociétés ne peuvent pas s'expliquer par une prétendue supériorité raciale, ni le hasard, ni la providence, mais c'est que les ressources offertes par le milieu où se développe telle ou telle société sont supérieures ou inférieures. Et quel est l'usage que la société a su ou a pu faire des ressources dont elle dispose? Et pour lui, tout est là. C'est une thématique qui n'est pas nouvelle, hein? Parce que ça nourrissait déjà la réflexion de Montesquieu. Dans l'Esprit des lois, en 1748, Montesquieu donc, expose des vues assez voisines de celles de Jared Diamond. Il nous dit que le climat influencerait la nature de l'homme et de sa société et que certains climats seraient supérieurs à d'autres Et évidemment, le climat tempéré de la France étant le climat, n'est-ce pas, idéal. Ça peut sembler une théorie légère, mais il faut dire qu'il y a plusieurs économistes qui, aujourd'hui, expliquent l'origine des inégalités nord-sud en reprenant cette idée en introduction de leur développement. Ils nous disent, en gros, que les pays riches jouissent souvent d'un climat tempéré, alors que les pays pauvres sont exposés à des climats tropicaux propices à des parasites, à des maladies, à des cyclones et à toutes sortes d'autres fléaux. Je voudrais vous parler aussi d'un livre qui a été écrit en 1963. C'est l'historien canadien William McNeill qui a publié « The Rise of the West ». C'est un des premiers livres, il semblerait, en 1963, qui initie toute une littérature qui va essayer de répondre à la fameuse question du miracle européen. Moi, le seul reproche peut-être que je ferais à Jared Diamond, c'est qu'il tente une explication qui est monocausale. Or, il serait étonnant qu'un phénomène aussi massif, complexe et durable que l'hégémonie occidentale n'ait qu'une seule cause. Alors, on va survoler ici différentes hypothèses faites par différents auteurs, et tout en gardant en mémoire que ces hypothèses-là ne sont pas exclusives, elles sont complémentaires. Donc, il faut penser que la suggestion, l'hypothèse de Jared Diamond doit être complétée par d'autres hypothèses. On va d'abord rappeler qu'au 15e siècle, si on se replace au 15e siècle, il n'y a pas un seul contemporain qui aurait parié un copec sur la domination européenne. Parce qu'à cette époque-là, l'hyperpuissance, c'était la Chine et aussi certains ensembles de civilisations comme l'Inde et le monde arabo-musulman qui étaient technologiquement et économiquement beaucoup plus avancés que l'Occident. Alors, la grande question, reste de savoir quand l'Europe a été en mesure de dépasser ses concurrents, donc, et pourquoi elle y est arrivée. Il y a un auteur qui s'appelle Philippe Nemo, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident? » Et il a essayé d'établir dans ce livre quel est le processus de fabrication de l'Occident, donc comment s'est fabriqué l'Occident. Et il a situé, lui, 5 moments clés qui auraient participé donc à la fabrique de l'Occident. Le premier moment clé, ce serait à l'émergence des cités, donc environ 10 siècles avant notre ère, les Grecs. Les Grecs vont progressivement fractionner le pouvoir entre les citoyens et introduire l'idée que la loi, étant d'origine humaine et non divine, peut être modifiée par l'homme. Ça veut dire que l'ordre social peut être soumis à la critique et au changement. C'est un aspect très important, ça, de la pensée occidentale, et vous allez voir que ça va revenir chez plusieurs autres auteurs, l'idée que l'ordre du monde peut être changé et modifié par l'homme. Pour les Grecs, il y a aussi les philosophes grecs qui vont développer une rationalité critique et fonder donc les démarches qui vont aboutir aux sciences modernes. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, la Rome, évidemment, la Rome antique. Les magistrats romains vont élaborer un droit privé commun qui va fournir le socle du droit moderne actuel. Ils déterminent l'existence de ce qu'on appelle un sujet de droit. Le sujet de droit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la personne juridique et c'est le fondement de la philosophie humaniste. Et c'est aussi les fondements de la notion moderne d'individu. Donc, c'est un moment qui a été très important dans la fabrique de l'Occident. Le troisième moment, pour Philippe Nemo, c'est le christianisme. C'est en fait la notion de progrès qui aurait été amenée par le christianisme. La morale de l'amour, en apportant une sensibilité inédite à la souffrance humaine, apporte un esprit sans équivalent dans l'histoire antérieure connue de rébellion contre l'idée de la normalité du mal. Et ça a donné le premier branle à la dynamique de ce qu'on a appelé le progrès historique. Donc, qu'est-ce que c'est le progrès historique? C'est la conviction que le temps s'inscrit dans un développement prévu. Il y a le sociologue Rodney Stark, avec le livre « Le triomphe de la raison », lui qui dit en fait que le christianisme, c'est le seul moteur de l'exception européenne. Pour le christianisme, l'histoire s'inscrit donc dans un développement qui a un début, un développement, et une fin. Et l'homme a le devoir d'installer sur la terre la loi divine, la loi de Dieu, pour que la fin advienne. Donc, au passage, ça impose une vision linéaire de l'histoire. Il y a un début, il y a un développement, il y a une fin. Et ce que ça amène, c'est que contrairement... avant, on pensait que, que le monde était fait de cycles. Donc, c'est le cycle des saisons, c'est le règne des empereurs chinois. Tout est rond et tout revient. Alors que dans la conception chrétienne, il y a un début, il y a un développement, il y a une fin. Donc, il y a un progrès historique. Et avec ça, émerge la possibilité intellectuelle d'influencer le cours des événements. Donc ça, ce serait le troisième moment. Le quatrième moment, c'est Grégoire VII, la réforme grégorienne. Grégoire VII a été pape de 1073 à 1085 et il a imposé une réforme qui va avoir des conséquences très importantes en Europe. Il modifie les structures ecclésiales et par ricochet, la connaissance, les valeurs et les institutions de la société européenne dans son ensemble. Donc, l'Église va limiter la violence entre seigneurs parce qu'à cette époque, on est dans le monde seigneurial et les barons se tapent dessus allègrement et on vit en état de guerre presque permanent. Donc, l'Église va limiter la violence entre seigneurs en faisant ce qu'on a appelé la paix de Dieu et va canaliser cette violence par les croisades à l'extérieur de l'Europe. Et il va aussi donner dans l'assistance sociale en créant les ordres mendiants. Ça va apporter une grande amélioration de conditions de vie des gens. Il va aussi relancer l'application du droit romain et l'universalisme. Donc, il va y avoir des conséquences très importantes à la réforme grégorienne parce que les papes suivants vont poursuivre ces réformes. Et il y a aussi des économistes qui considèrent que la réforme grégorienne a donné naissance au capitalisme. Voici comment. L'Américain Douglas North a écrit, est-ce qu'ils nous donnent le titre du bouquin? Non. Économique. Donc, Douglas North considère que l'essentiel du succès de l'Occident réside dans le développement que cet auteur fait remonter donc, au 11e siècle, ça veut dire à Grégoire VII, d'un droit de la propriété privée. C'est probablement la conséquence d'avoir remis à l'ordre du jour le droit romain. Le droit romain. Donc, le droit de la propriété privée, ça va permettre de dégager des surplus, de les réinvestir dans la recherche continue et croissante de nouveaux marchés. Donc, finalement, on peut parler de naissance du capitalisme. Le cinquième temps, c'est un ensemble d'événements qui vont tous aller dans la même direction. Les insurrections huguenotes du 16e siècle, la guerre de libération néerlandaise contre les Espagnols, les deux révolutions anglaises 1642 et 1688, la guerre d'indépendance américaine, la Révolution française, les révoltes en Pologne, Allemagne, Italie, bref, tous ces événements qui vont mener à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions démocratiques et libérales de nos pays occidentaux modernes, selon Philippe Nemo. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle des institutions démocratiques et libérales de nos pays occidentaux? Je vous les énumère. La démocratie représentative, le suffrage universel individuel libre et secret, la séparation des pouvoirs, une justice indépendante, une administration neutre, les mécanismes de protection des droits de l'homme, la tolérance religieuse, la liberté de la recherche scientifique, les libertés académiques, la liberté de la presse, la liberté d'entreprendre et la liberté du travail, la protection de la propriété privée matérielle ou immatérielle et le respect des contrats. Alors, ces institutions démocratiques et libérales vont faire l'objet d'une discussion que je vais avoir tout à l'heure avec mes invités en troisième partie de l'émission. Alors, pour poursuivre sur les hypothèses qui expliquent l'hégémonie de l'Occident, il y a une date qui revient dans beaucoup, beaucoup d'écrits, c'est 1492. 1492, c'est le tournant des temps modernes. Et c'est une date qui est souvent choisie comme point de départ des réflexions des auteurs. Le médiéviste Jérôme Bachet dit que la découverte des Amériques par Christophe Colomb s'explique par une dynamique expansionniste acquise à partir du 11e siècle. On revient souvent au 11e siècle. Hein. Il semble que la réforme grégorienne a eu beaucoup d'importance. C'est qu'effectivement, ça a donné place à une grande croissance démographique et qui s'est conjuguée avec de nombreuses innovations technologiques et institutionnelles. Cette explosion démographique et ce progrès technologique va mener à un processus d'ensemble très fort, qui va devenir très fort rendu au 15e siècle dans les pays d'Europe occidentale, qui vont devenir des puissances expansionnistes majeures et qui vont manifester une volonté d'hégémonie mondiale. Alors, le fait essentiel, évidemment, de l'année 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Le géographe Christian Grataloup, dans Géo-histoire de la mondialisation, indique que ça marque un basculement du monde, parce que l'Europe, les pays d'Europe qui ont ce désir d'expansion et d'hégémonie, vont étendre la superficie de contrôle à des échelles inégalées. Ils vont se nourrir donc de ressources phénoménales, qu'elles soient minérales ou végétales. Alors, ici, il y a une question qui se pose. Comment une poignée d'Européens, parce qu'ils ne débarquaient pas là par milliers, là. Ça partait quoi, 3-4 bateaux, ils en partaient un ou deux en route. Quand ils débarquaient en Amérique, ils étaient peut-être une centaine, quelques centaines. Alors, comment une poignée d'Européens ont réussi à conquérir les deux Amériques d'immenses étendues qui étaient par ailleurs contrôlées par des empires centralisés et efficaces, surtout quand on parle quand on pense aux Aztèques et aux Incas. Alors, on a la réponse ici. La réponse nous est donnée par certains polémologues. Alors, un polémologue, oui, c'est un mot que j'ai découvert moi aussi, que je ne connaissais pas. La polémologie, c'est la compréhension des conflits, de leurs origines et de leur fonctionnement. Alors, j'ai cru que polémologue venait de polémique, polémiste, que c'était donc l'étude des conflits. Donc, la réponse de certains polémologues semble tomber sous le sens commun. Nous, les Occidentaux, nous sommes les meilleurs tueurs. Tel est le diagnostic de Victor Hanson dans « Carnage et culture ». Donc, le secret de l'Occident serait, pour cet auteur, l'élaboration d'armées qui soient de formidables machines à tuer. Et ça découlerait de la pratique du gouvernement, de l'économie, de la science, du droit, de la religion, qui entraînerait une capacité à se battre acquise par des Européens dans des nations en conflit permanent. Alors, on arrive sur une théorie très importante qui a été reprise par beaucoup d'auteurs aussi. Il y a Paul Kennedy, entre autres, dans « Naissance et déclin des grandes puissances ». C'est un historien états-unien qui a étudié l'état de guerre occidentale par le biais de l'économie. Il souligne que l'activité principale des puissances européennes, et là on part depuis très longtemps, là, depuis le 11e, 10e siècle, l'activité principale des puissances européennes est de loin la guerre, à laquelle ces nations consacrent la quasi-totalité de leurs ressources, ce qui entraîne en contrepartie de formidables progrès technologiques et des organisations sociales, mais aussi fiscales et économiques tout entières dédiées à l'accumulation de revenus et de moyens dédiés à la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun empire qui réussit à l'emporter sur les autres États. Et ça crée un état d'équilibre entre les nations et ça crée aussi un état de conflit et de guerre qui perdure et qui devient permanent. À chaque fois qu'il y a une hégémonie naissante, que ce soit Charles Quint au 15e siècle, au 16e siècle ou Napoléon au 19e, il y a tout de suite des alliances qui se font entre les autres et on empêche donc cette hégémonie-là d'exister. On va revenir aussi à l'idée de progrès. Je vous parlais du changement tout à l'heure, ou à tout le moins le rapport idéologique particulier au changement qu'on trouve en Occident. Il y a donc de nombreux livres qui témoignent de ça. Il y a Philippe Richardot dans « Le modèle occidental » qui dit que c'est grâce à sa faculté d'inventer sans cesse et sans entrave que l'Europe a pu s'imposer. Il y a le Roumain Lucian Boia qui, dans « L'Occident, une interprétation historique », diagnostique que l'Europe avait pour principal atout de privilégier le changement. Il y a l'économiste et historien Joël Mokyr, dans « The Gifts of Athena », qui soutient que l'expansion des connaissances constitue le moteur principal du développement économique, le savoir permettant de multiplier les leviers à même d'améliorer le quotidien des sociétés. Alors, les derniers auteurs que j'ai nommés donc, appartiennent à une école qui mettrait plutôt l'accent sur des dispositions sociétales et mentales propres à l'Occident. Il y a un autre courant qui est plus axé sur l'économique et qui est représenté en premier lieu par l'historien Fernand Braudel. Lui, il estime dans « Civilisation matérielle, économie et capitalisme » que le grand bouleversement vient des changements d'échelle qu'il appelle l'économie monde européenne. L'économie monde européenne, ça commence avec les grandes cités-états marchandes, boursières et bancaires que sont Venise, Gênes, Amsterdam, Anvers. Donc, à partir du 14e siècle, ce serait le premier noyau de cette économie monde européenne. Et ça s'est développé en deux étapes, mais c'est surtout construit sur l'idée que des rapports inégaux entre les pays occidentaux et le reste du monde. C'est qu'il y a des échanges qui sont construits avec le reste du monde, mais de manière inégale, dans le sens où c'est l'Occident qui est toujours le gagnant. Son analyse est à rapprocher aussi à celle du sociologue et historien Jean Baclair, pour lequel l'Occident, en inventant le capitalisme, a initié un processus de changement économique majeur. Je m'en voudrais de terminer sans parler d'une autre hypothèse qui explique l'hégémonie occidentale, qui serait la révolution industrielle, bien sûr. Au 19e siècle, la révolution industrielle, et aussi le fait que les savants occidentaux théorisent la propagation des maladies, donc appellent les gens à se laver les mains, découvrent l'hygiène. Bon, ça provoque toutes sortes une meilleure condition de vie, une nouvelle explosion démographique qui va nourrir les États-Unis, qui va créer finalement les États-Unis. Donc, révolution démographique, révolution industrielle, qui aboutit au règne du capitalisme, bien sûr. Alors, je termine en récapitulant. Capitalisme, révolution industrielle, croissance urbaine, liberté politique, savoir-faire militaire, changement démographique, environnement naturel, comme dans le cas de avec la théorie de Jared Diamond. Et je rajouterai un autre élément, et je suis étonnée en fait que l'auteur ne l'aurait pas repris en conclusion, cette relation favorable avec l'idée du changement ou du progrès. Parce que c'est assez contre-intuitif, en fait. Normalement, l'être humain n'aime pas le changement et est résistant au changement. Et c'est curieux à quel point la civilisation occidentale a fait du changement un absolu, un idéal, presque. Il nous reste quelques minutes, il nous reste 3 minutes. David voulait nous lire un texte de quelques minutes. Oui, il nous reste à peu près ça, 3 minutes. Est-ce que David va venir mettre son grain de sel ou son grain de poivre?
Que tu me demandes ça si rapidement. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu parlais tantôt que le christianisme avait été un facteur civilisateur de l'Occident. Eh bien, j'aimerais paraphraser Jésus. Aime Stephen Harper comme toi-même.
Voilà. Mon Dieu, mais t'as pris ça où?
Aime ton prochain comme toi-même. Hein. voilà. Alors, je l'introduis rapidement, un livre de Philip Murray. On en a déjà parlé il y a quelques mois dans le cadre... je me rappelle plus c'était quoi le topo de l'émission, mais en tout cas, c'était sur l'homme festif, l'homme qui fête de fêter.
Oui, oui.
Alors, ce même Philip Murray a écrit un petit livre sur la désintégration de l'Occident qu'il a appelé « Chers djihadistes ». C'est une lettre ouverte aux djihadistes qui leur disait... Ben, en fait, je vais le laisser lui-même s'exprimer. Il le fera bien mieux que moi. Alors, voici, je vous cite un extrait de ce bouquin très drôle. « Chers djihadistes ». Il est nécessaire que vous vous mettiez dans la tête cette vérité sans précédent. Tout ce qu'il reste encore d'actif sur nos continents complote jour et nuit à perdre ce qu'il reste encore d'être humain. Et même, plus personne ne peut être payé s'il lui vient l'idée saugrenue de se livrer à une autre tâche. Notre société ne salarie que cette besogne. La dévastation de l'ancienne raison est une commande sociale. Ce travail, qui aurait semé l'épouvante dans l'humanité des temps héroïques, est accueilli désormais avec des cris de joie. Chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c'est un magasin de porcelaine dont les propriétaires, de longue date, ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s'y trouvait entassé. Ils ne peuvent même survivre que par là. Vous les avez perturbés. Vous êtes les premiers démolisseurs à s'attaquer à des destructeurs, les premiers barbares à s'en prendre à des vandales, les premiers incendiaires en concurrence avec des pyromanes. Cette situation est originale. Mais à la différence des nôtres, vos démolitions, s'effectuent en toute illégalité et s'attirent un blâme quasi unanime. Tandis que c'est dans l'enthousiasme général et la félicité la plus pimpante que nous mettons au point nos tortueuses innovations. C'est aux applaudissements de tous, par exemple, qu'ici, nous machinons le nouveau livret de paternité. Et là, j'en passe parce qu'il s'étend dans différentes choses qui fait que notre société s'est désintégrée, mais je vous conseille cette lecture très, très drôle. Philip Murray, cher djihadiste, paru au Mille et une nuits. Voilà.
Merci beaucoup, David.
Plaisir.
Alors, on va faire une pause musicale parce qu'on va passer maintenant à la dernière partie de l'émission. On va accueillir mes invités. J'ai 4 invités pour une discussion libre sur la question de l'Occident. On va leur demander de défendre leurs idées et par conséquent de choisir une pièce appropriée pour les mettre dans l'ambiance.
Ben effectivement, il y a des gens qui vont jusqu'à mourir pour des idées. Alors c'est une pièce de Brassens qui nous dit que lui, il serait d'accord, mais il y a quand même quelques conditions peut-être.
Merci.
Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort
la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les bouts de feu, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
J'accueille donc avec moi quatre personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu de la discussion libre sur les valeurs occidentales, ou plutôt sur les institutions démocratiques et libérales de la société occidentale. Alors, Adrien Dugas. Bonjour Adrien.
Bonjour Catherine.
Martin Léveillé.
Salut Catherine.
Pierre-Luc Bourgault, c'est ça?
Grenier.
Grenier, Pierre-Luc, ça va bien, Pierre-Luc Grenier. Et l'homme qui a vu l'homme qui a aussi accepté de se prêter à l'exercice.
Ben, rebonsoir.
Rebonsoir. Alors, on va parler des institutions démocratiques et libérales. J'en ai donné la liste tout à l'heure, je vous en rappelle quelques-unes. La démocratie, la séparation des pouvoirs, une justice indépendante, une administration neutre, la protection des droits de l'homme, la tolérance religieuse, la liberté de la recherche scientifique, la liberté de presse, etc. Déjà, j'imagine que dans la tête de plusieurs, on constate qu'il y en a quelques-unes qui ont été très malmenées ces dernières années. Le gouvernement Harper peut être questionné sur la liberté de la recherche scientifique, je pense que ça a été amplement dit. La justice indépendante avec la nomination des juges, c'est pas toujours évident. La tolérance religieuse avec toute l'histoire du foulard islamique au Québec, bon, alors on se rend compte tout de suite que ces institutions-là sont beaucoup moins fortes qu'avant. Alors, on va se demander ensemble, est-ce que ces valeurs qui ont fait la grandeur de l'Occident, ou en tout cas qui seraient le meilleur de ce que l'Occident peut offrir au monde, est-ce qu'ils sont en train de disparaître? Et en fait, qu'est-ce qu'il en reste? On va faire un premier tour de table là-dessus, l'homme qui a eu l'homme.
Bon, alors au sujet de la démocratie, la liberté sont-elles en voie d'extinction? Moi, je crois que la société occidentale est son propre ennemi et est déjà en phase avancée d'autodestruction. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié les racines morales sur lesquelles elle s'est édifiée. Parce que nous nous sommes laissés embrigader dans une course effrénée de production dans un but de consommation, en laissant de côté la finalité même de notre présence sur la planète. Parce que les avancées de la science nous font croire que nous pouvons maîtriser la nature et détruire impunément son équilibre. Parce que nous accordons de moins en moins d'importance à la qualité, qui de fait n'est pas quantifiable. Combien vaut un sourire, un petit geste de courtoisie? Un moment passé à écouter l'autre, à le soutenir, combien vaut l'art, la culture? Parce que le vice de la cupidité est présenté maintenant comme une vertu. Parce que nous avons, dans notre société judéo-chrétienne, complètement mis de côté les quatre vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance.
Merci beaucoup, l'homme qui a vu l'homme. Tu nous as relancé un petit peu sur les causes de la chute de l'Occident. Je pourrais te revenir, Pierre-Luc, sur qu'est-ce qui en reste de ces belles valeurs occidentales.
Ben, qu'est-ce qui reste de nos institutions de nos valeurs? De nos valeurs, moi, je pense que c'est en lien direct avec l'abandon du christianisme à l'état pur et non du clergé, qui était une bonne chose, tant qu'à moi, parce que c'est une source de tyrannie. Mais on a troqué notre servitude face au clergé envers le capital, envers les richesses matérielles. Ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, moi je suis content de venir parler du déclin de l'Occident aujourd'hui parce que je suis quand même quelqu'un de pessimiste d'envie, donc ça fait mon affaire de parler de choses plutôt obscures. Oui. Mais non, tant qu'à moi, j'ai pas beaucoup de positifs à ressortir de l'état de la société occidentale. Notre déclin est dû à quelques facteurs principaux. Le premier que j'ai nommé, l'abandon du christianisme, c'est-à-dire le détachement de ce qui a construit en bonne partie justement le socle sur lequel reposait la civilisation occidentale. Puis, puis en deuxième lieu, principalement, c'est le capitaliste tant qu'à moi qui a mis à mal nos valeurs et nos institutions. D'autant plus que plus le capitalisme a du mal à rendre les promesses faites au peuple, c'est-à-dire en termes de salaire, de pouvoir d'achat et de loisirs, plus il doit, moins il peut se permettre le luxe de nous livrer nos institutions démocratiques. Donc plus il doit contourner les règles, puis plus il doit enfreindre nos libertés individuelles pour se maintenir en place. Donc pour moi, le capitalisme est la principale raison pourquoi l'Occident est en crise aujourd'hui. Puis il y a aussi le fait que l'homme, à la base, est un être profondément servile. Donc je me demande si nos libertés individuelles, on y tient tant que ça. Mm. Quand je pense à l'autre jour, le pseudo-acte terroriste qui s'est produit à Ottawa, alors que quand on constate les faits avec un fusil de chasse, etc., c'est plutôt absurde. Puis dès le lendemain matin, j'entendais Jérôme Landry à Choix Radio X qui réclamait la loi martiale, que l'on cède quelques libertés en échange de davantage de sécurité. Donc je me dis, est-ce qu'on en veut réellement de notre liberté?
Ouais.
Donc pour toutes ces raisons, ben, on en est où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Merci Pierre-Luc. Je constate que vous semblez avoir davantage envie de parler des causes pour le moment du déclin de l'Occident. Martin, est-ce que c'est aussi ce qui t'a préoccupé?
Répète-moi ta question.
Ma question de départ, c'était qu'est-ce qui reste des institutions démocratiques et libérales? Mais nos deux premiers invités ont plutôt répondu à quelles sont les causes du déclin de l'Occident. Je ne sais pas comment tu te positionnes.
Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a une espèce de déclin qui est amorcé, là, qui est plus ou moins avancé, dépendamment des institutions, entendons-nous, parce que les institutions n'ont pas tous le même état d'avancement, si tu veux, ils ne seront pas tous rendus à la même place.
Oui.
Parce que, je veux dire, la démocratie, oui, on a le droit de voter. Oui, le vote est secret. Combien de gens s'en prévalent? Bon, ça, c'est une autre question. Si on regarde ailleurs, il y a des endroits sur la planète où il n'y en a pas du tout de démocratie. En Chine, par exemple, bon, ça va très bien économiquement.
On parle des pays occidentaux.
Oui, mais
là,
juste pour faire une parenthèse, ces valeurs-là, on veut les forcer aux autres aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ces valeurs-là, on essaie de les imposer au reste de la planète.
Oui.
Et tout à l'heure, tu mentionnais la date de 1492 comme étant une espèce de point charnière là, qui lançait un peu la civilisation occidentale. Et qu'est-ce que c'est la civilisation occidentale? Pour moi, ce sont des conquérants d'abord et avant tout. Et alors, on avait le vase clos, si tu veux, qui était la Méditerranée, où tout s'est passé au début, les Grecs, les Romains. D'ailleurs, Rome, la Grèce, tout ça, c'est au centre de la Méditerranée. Il ne faut pas se le cacher, c'est géographique d'abord et avant tout.
Oui.
Et à partir de là, en 1992, on a eu une explosion.
En
1492, pardon. on a eu une explosion parce qu'on a découvert des nouveaux continents. Tout ça, ça a amené de la nouvelle richesse. Et automatiquement, on dirait que la civilisation occidentale va bien quand elle peut croître, quand elle peut conquérir de nouveaux espaces, etc. Et maintenant, la planète devient une espèce de vase clos. Alors, la force motrice en arrière de la civilisation occidentale est en train de disparaître, tant qu'à moi. Si ce n'est peut-être un jour, on va peut-être aller miner des astéroïdes, là, puis tout repartira de cette façon-là. Mais la planète est en train de devenir lui-même une espèce de cul-de-sac. Et à ce moment-là, ça crée de la concentration des richesses, comme on le voit ici, le 0,1%, le 1%, etc., etc. Ça crée des débalancements et c'est très difficile de maintenir toutes ces valeurs-là, comme le mentionnait tout à l'heure
Pierre-Luc,
avec aussi l'abandon un peu de la religion dans beaucoup de pays occidentaux. Pas tous, parce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est encore très fort la religion,
et
à bien d'autres endroits aussi.
Oui.
Alors moi, je dis que la plupart des institutions sont en péril parce que... Mais il en reste tous de quelque chose. Il n'y a rien là-dedans qui a disparu. Là, quand on fait le tour de la liste...
Mais ça se réduit dangereusement. Mais... La liberté de la recherche scientifique, là, c'est vraiment c'est menacé. Là.
Au Canada?
Oui.
C'est ça. Je veux dire, c'est dur de faire
un
tableau global, de dire ça va mal ou ça va bien partout en Occident. C'est difficile de faire cette...
Mais on sent qu'il y a un déclin général.
Il y a un déclin généralisé, ou du moins un changement. parce que le vase clos, justement, s'est rendu la planète, et ce n'est plus la Méditerranée. Et on est confronté à d'autres civilisations qui ont décollé maintenant. Là, on ne parle plus de sauvages, entre guillemets, ou de peuplades reculées. Là, on parle de l'Asie, on parle... L'Afrique devrait lever là, d'ici quelques décennies, tu sais, je dirais, etc., etc. Mm-hmm. Alors, la planète devient une espèce de melting pot où tout ça se confond et s'affronte. Là. Ce qui fait que qu'est-ce qui va en rester? Je peux pas répondre à ça, mais ça va pas bien pour les institutions en général.
Il semble y avoir un consensus ici. Adrien, quelle est votre position sur l'état des institutions démocratiques et libérales en Occident?
Moi, je dirais, Catherine, qu'il y a une chose qui m'apparaît assez évidente, c'est la disparition du politique. C'est-à-dire que la société semble maintenant se déterminer uniquement sur des bases économiques et le pouvoir politique semble jouer un rôle tout à fait secondaire. Et on peut comprendre aussi pour quelles raisons de plus en plus de gens s'abstiennent de se rendre aux urnes et d'exercer leur droit de vote. Je voudrais dire un mot également sur la question de la liberté de la presse. Parce qu'on a l'impression, Catherine, que les diffuseurs semblent s'être donné le mot pour nous faire vivre dans un monde d'imbécilité. Il suffit d'écouter nos médias électroniques, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, où l'information est traitée comme un pur produit de consommation. On amuse le bon peuple, on essaie même de le rendre plus bête qu'il l'est en réalité. Et en fait... On veut le rendre quoi? Incapable de réfléchir, de se comporter de façon mature.
Vous semblez faire un lien entre le désengagement politique et l'information spectacle.
Je pense que c'est lié. C'est une société qui s'écroule et on a l'impression que ça cède d'un peu partout. Tant du côté du politique que des médias qui, de toute façon, maintenant, sont devenus de grands amuseurs publics. Et même nos hommes politiques sont devenus des hommes de théâtre. Et pour moi, c'est un peu le signe d'une société qui est à son déclin, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu ce que je voulais dire, Catherine.
Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que quelqu'un d'autre a dit? Est-ce que ça vous a stimulé?
Bien, il y a le contrôle médiatique puis l'abrutissement des peuples, en fait, qui contribuent largement au non-fonctionnement de notre démocratie, c'est-à-dire qu'une démocratie qui se veut bien fonctionner doit avoir une population, somme toute, assez bien éduquée ou du moins bien informée sans être bien éduquée. Mais souvent, les deux vont de pair. Hein. Alors, à partir du moment où des banquiers achètent des médias comme Libération, Le Monde, donc à partir de ce moment-là, l'information n'y est plus. Puis, combiné au fait que dans les universités, maintenant, les programmes ou du moins la vocation des universités est étroitement liée aux besoins du marché du travail. Donc, la vocation première de l'université est de transmettre le savoir, ce n'est plus le cas. Donc, on se ramasse avec un peuple complètement abruti, auquel on dit que les vraies choses ne concernent que le monde économique maintenant. Donc, on essaie d'évacuer de la sphère publique tout ce qui est rattaché au verbe être, c'est-à-dire la culture, l'identité, tout ça. Donc, les politiciens, même embarquent dans le jeu, nous disent que quand on parle des vraies affaires, on parle de choses économiques. Donc.
Ce que je sens dans ton discours, peut-être un petit peu dans le discours d'Adrien aussi, c'est que le capitalisme est rendu un adversaire des valeurs démocratiques et libérales. Ben, est-ce qu'on pourrait le formuler comme ça? Est-ce qu'on pourrait dire que le capitalisme est devenu un ennemi?
C'est ce que je raconte depuis le début. En fait, c'est mon ennemi principal en lien avec le sujet. Mais inévitablement, parce que à partir du moment où tu contrôles l'information, tu contrôles les esprits, et puis tu détournes les institutions.
J'aimerais ça entendre Martin là-dessus. Est-ce que tu...
Ben, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la presse ici, c'est assez fantastique là, au Québec, parce que d'un côté, on a les libéraux qui sont à côté sur M. Desmarais et son empire médiatique, et de l'autre, le PQ, qui est un petit peu plus franc avec nous, qui va mettre PKP et Québécois à la tête
de son parti.
De son parti. Alors, on a vraiment deux pôles ici, ces deux médias, Alors, c'est deux médias qui sont contrôlés, ou pas vraiment contrôlés par deux partis politiques, mais qui sont teintés fortement par deux partis politiques, et on le voit au niveau éditorial, et on va le voir de plus en plus, là, ça. Fait que, tu sais, la liberté de presse, elle existe. Dieu merci, on a Internet, puis on a plus que deux sources de nouvelles, là. Mais dans les grands médias, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui s'est dit autour de la table, les grands médias, c'est plus de l'entertainment que de l'information ou de quelque chose d'intelligent. Là, pour aller voir, pour aller chercher quelque chose vraiment de... Quand on parle de liberté de presse, on ne parle pas des grands médias ici. En tout cas, pas au Canada. Là. J'y crois plus à ça du tout.
Ouais.
Mais heureusement, on a d'autres avenues que ce qu'on n'avait pas avant. Tu sais, je veux dire, l'Internet, c'est la presse de Gutenberg de notre époque. Là, je veux dire, c'est une révolution en
c'est
soi.
C'est encore
aussi.
En ce moment un espace de liberté.
Et c'est pas terminé tout ça non plus. Ça ne fait que commencer. Alors, où est-ce que ça va nous mener? C'est peut-être une chance, justement, de récupérer une partie de cette liberté-là de presse et même un peu plus loin, là, individuelle, là, informative. Du moins.
Mais pour revenir à ma question, est-ce que on pourrait dire que le capitalisme est peut-être la source de cette information spectacle et légère. Est-ce que le capitalisme est vraiment devenu un ennemi clair et déclaré des institutions démocratiques?
C'est pas nouveau, ce phénomène-là. Moi, je dirais en fait que le capitalisme a vécu une exception pendant le 20e siècle. Parce qu'en général, le capitalisme, ça fait une concentration des richesses. Qu'on parle aux fins du 19e, on parle des grands barons américains, là, les Carnegie, les etc., etc. Il y avait une poignée d'hommes là, qui avaient l'argent et on revient à ça aujourd'hui. Pendant un bref instant, il y a eu une grosse classe moyenne aux États-Unis. Mais il y a eu une grosse classe moyenne aux États-Unis parce que le reste de la planète était dévasté suite à la Deuxième Guerre mondiale. Là, tu sais, je veux dire, c'est un accident de parcours. Parce que le capitalisme en soi, le capital crée d'autres capitales. Fait que tu n'en sors pas de ça. À un moment donné, tu te ramasses avec une poignée de monde qui ont le gros de l'argent. Et ils vont tout faire pour leur intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lobbies, ils essayent de contrôler la politique pour payer moins d'impôts, ils essayent de contrôler la presse pour que le monde ne fasse pas de révolte, etc., etc. Mais ce n'est pas nouveau. Je pense que nous, on est nés peut-être dans une époque où c'était moins pire, puis là, ça reprend sa place habituelle du temps de César. Là,
parce que le capitalisme vaut moins bien, en fait. Donc, doit être plus brutal pour se maintenir en place. À quelque part, c'est ce que vous venez de dire. Parce que...
Il retrouve son efficacité d'antan, entre guillemets. Là. Je fais des gros guillemets qu'on voit pas à la radio.
Ouais, ben c'est ça, il y a eu les 30 Glorieuses. Donc, étant donné qu'il y avait une espèce d'euphorie collective, il n'a pas eu besoin de mettre à mal nos institutions pour se maintenir en place. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une époque de compression, ou du moins de réduction des pouvoirs d'achat, ben, doit faire preuve de plus d'agressivité pour...
Et je veux juste rajouter une chose aussi, c'est que cette période-là a été marquée par un balancier. Tu avais de l'autre côté le communisme. Il ne faut pas l'oublier. Toutes aussi. Les années où le capitalisme, entre guillemets, allait bien et essayait de supporter nos valeurs occidentales, il était confronté toujours à cette menace communiste-là. Et à partir du moment où cette menace-là est disparue, c'est là que ça s'est mis à se réemballer de plus belle. Là. Parce que tant qu'il y avait ça, il y avait toujours la petite menace. Là. Bon, mais
une petite gêne. Hein?
Une petite gêne. Et en Europe, je veux dire, ça votait plus socialiste, ça votait plus communiste, etc., etc. Ici, les syndicats étaient plus forts parce qu'il y avait cette espèce d'idéologie-là de l'autre côté qui n'est plus. Aujourd'hui, on est contre le terrorisme. C'est une autre histoire complètement différente parce que ça, là, ça t'attaque chez vous. Ce n'est pas une affaire qui est loin là, en Russie ou en Chine. C'est une affaire qui fait sauter des bombes dans ta cour. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis les libertés individuelles au nom de la sécurité, etc., etc. Ça fait que c'est une dynamique complètement différente de « j'ai la Russie ou l'URSS l'autre côté qui a des bombes et qui peut peut-être m'en envoyer ». Mais ce n'est pas pantoute la même affaire.
Est-ce que vous vouliez réagir, Adrien?
Moi, juste un petit mot. C'est peut-être moins le capitalisme qui m'intéresse comme la crise des valeurs et la crise de la culture. Et ça, ça se traduit même dans le système d'éducation. Parce que dans le contexte actuel, le système d'éducation vise moins le développement intellectuel des étudiants que de former une main-d'œuvre pour le marché du travail. Et la démocratie, dans ce sens-là, devient un peu un vain mot parce qu'il ne peut pas exister plus de démocratie dans un pays qu'il y a d'éducation. Et s'il y a peu d'éducation, forcément, la démocratie, ça ne veut plus rien dire.
Est-ce que vous voulez réagir sur l'éducation?
Oui, moi, peut-être un petit mot. Effectivement, moi j'ai un garçon qui a 21 ans, là, qui est au cégep actuellement. Je vais vous dire que moi j'ai suivi d'assez près ce qu'il a appris, ou plutôt ce qu'il a très peu appris au secondaire. Et puis ça, j'ai trouvé ça effrayant d'avoir à voir, à découvrir que finalement, c'est ça, l'école est devenue comme une espèce de, je sais pas là, d'endroit où il faut former des gens pour faire des choses et non pas former des gens à apprendre. Moi, en gros, c'est ce que j'avais à dire là-dessus.
Parce que dans la mesure où un système démocratique avec toutes ses institutions pourrait être bien défendu puis être maintenu en place d'une façon, être sain finalement comme mode de fonctionnement social, implique que les gens soient informés et bien éduqués. Donc à partir du moment où l'université est détournée de son but principal, à partir du moment où moi je forme dans un contexte professionnel dans mon travail, des étudiantes qui finissent l'université ne savent pas écrire en français, ne savent rien, aucune culture générale, à peine s'ils sont formés pour exercer leur métier. Et puis je me dis, ben, à quoi bon être assis pendant 15 ans, 16 ans? Je me dis, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on a juste formaté des esprits? Je ne sais pas, je me questionne à ce niveau-là. Mm. Donc, mais c'est sûr que pour que le peuple maintienne ses intérêts en place, doit se battre constamment. Parce que rien ne s'obtient sans lutte. Donc, à partir dès le moment où on s'endort le moindrement, des pouvoirs nous sortiraient, puis la tyrannie s'installe, puis c'est ce qu'on vit présentement.
Oui, il y a une grande apathie en ce moment dans la population. C'est remarquable, ça, à quel point les gens ne réagissent pas au fait qu'on enlève des libertés, on met des mesures d'austérité. Bon, il y a eu quelques manifestations, c'est sûr, mais il reste que c'est pas... On ne sent pas que les gens sont prêts. On va passer à la deuxième partie de la discussion. Oui, tu voulais dire quelque chose, l'homme Kavilhomme?
Bien, c'est ça, du côté, justement, de la liberté. Des fois, il y a des dérapages, on l'a vu avec l'histoire de la radio poubelle, là. C'est que ces gens-là confondent liberté et licence de faire n'importe quoi.
Oui.
Alors, à côté... opposé à la liberté qui vient avec une certaine responsabilité. C'est ce que je voulais dire.
Il y aurait toute une discussion à faire, ne serait-ce que sur la notion de liberté. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais je voudrais qu'on fasse un deuxième tour de table, parce qu'il nous reste peut-être 5 minutes. On a identifié plusieurs causes et j'aimerais bien qu'on se demande maintenant... qu'est-ce qui menace en ce moment directement ce qui reste de nos institutions libérales et démocratiques? On fait un tour de table?
Moi, je pense que la menace principale, c'est l'accélération de ce qu'amène le capitalisme, l'accélération du temps, l'accélération de tout. On est comme dans une maison, puis là, actuellement, on est en train de brûler les meubles pour la chauffer, mais elle fuit de partout, la maison.
Oui. Puis l'accélération, ça nous empêche de réfléchir aussi.
Oui, tout à fait. C'est ça. Ça nous... Il y a tellement de choses à découvrir qu'on oublie encore une fois les bases, comme je disais tout à l'heure.
Merci, l'homme qui a vu l'homme. Pierre-Luc, est-ce que...
Ben, moi, je reviens encore à mon thème principal, c'est-à-dire que pour moi, la principale menace, c'est la mondialisation, dans le sens où, à partir du moment où on est en concurrence avec des Chinois, à partir du moment où on doit céder plusieurs droits acquis, ou du moins plusieurs privilèges qu'on a, le pouvoir va devoir nous écraser, faire fi de nos libertés, faire fi de nos institutions pour mener à bien leurs projets ou du moins seulement pour se maintenir en place. Donc pour moi, les années à venir vont aller dans le même sens. Puis l'apathie des gens me désole, puis je n'ai aucun espoir en fait d'un sursaut collectif quelconque. Je le constate dans mon milieu de travail, je le constate partout. Il y a une apathie générale, il y a un désintéressement de la chose publique,
oui,
de tout
le
ce qui est pas plaisir, consommable, matériel, quoi que ce soit. Dès que c'est des idées, dès que ça touche à la culture, dès que ça touche au verbe, je reviens à ça parce que ça m'épate. C'est pas important, c'est du pelletage de nuages. Il faut que ce soit lié au verbe avoir. Je possède quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait un intérêt financier à rendre service à quelqu'un. Si on veut faire le bien quelconque, engagez-moi avec une subvention communautaire pour que j'y aille. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que les années à venir vont aller dans le même sens. Puis l'espoir est à court terme, il n'y en a pas de mon côté. Peut-être à long terme, on verra bien.
Merci Pierre-Luc. Martin?
Je suis un peu d'accord avec Pierre-Luc dans le sens où l'apathie, c'est l'ennemi numéro un, je pense, du changement. Là, c'est bien évident. Si on regarde, pour que ça change, il faut que ça aille plus mal que ça. C'est bête à dire, là. Mais il y a encore trop de gens pour qui le petit train-train habituel est très confortable.
Ouais. Hein?
Alors, le confort et l'indifférence, c'est encore toujours très actuel, là. Et on a des gens sur le bien-être social, oui, on a des chômeurs, tout ça, mais qu'est-ce que ça présente en termes de pourcentage de population? Et ces gens-là ne votent moins en général, du moins, c'est ce qui semble être le consensus, là. Je ne dirais pas « vote pas », mais il y a beaucoup de gens qui devraient voter, puis ce n'est pas eux qui votent, c'est les gens qui, finalement, votent pour conserver leur petit confort, mais ceux oui. Pour qui ça va mal sont bizarrement souvent les plus apathiques, tu sais. Alors, par contre, des révolutions, ça se fait. On a vu le printemps arabe. On en voit des trucs là, sur la planète, mais c'est des endroits où ça va encore beaucoup moins bien qu'ici. T'sais.
Merci, Martin. Adrien?
Alors, moi, Catherine, j'avais préparé une intervention sur la question de l'islam. Et j'ai un petit texte que je vais vous lire rapidement pour être dans les délais de l'émission. Parmi les dangers qui menacent la civilisation occidentale, l'islam représente à mes yeux l'un des plus importants. Devenu à notre époque la première religion mondiale, son influence s'étend, gagne progressivement du terrain grâce aux enseignements des imams et à l'immigration massive des musulmans. Mais l'islam n'est pas seulement qu'une religion, c'est aussi une politique s'incarnant dans un régime répressif où la charia est code de loi. La guerre sainte et la haine des juifs font partie de l'islam. La violation des droits de l'homme, les sévices corporels pour crimes d'honneur et autres méfaits sont des pratiques ayant cours dans les républiques islamiques. L'islam étant une religion faisant retour à l'Ancien Testament, ses procédés sont aussi ceux de l'Ancien Testament. Il va de soi que la montée de l'islam constitue à moyen terme un péril pour l'Occident. Nos sociétés étant entrées dans une phase de déclin, elles peuvent difficilement résister à la pénétration d'une idéologie qui menace les droits fondamentaux et les libertés individuelles. On ne lutte pas contre des idées avec des canons. L'Occident ayant remis en question ses propres valeurs, on se demande ce que nous pouvons opposer aujourd'hui à l'islam.
C'est tout le temps qu'on avait pour Sekaïa. Je dis bonjour aux auditeurs de Sekaïa. On va se revoir dans un mois. Mais si vous voulez, on peut continuer la discussion pour Radio Fiat Lux. Les auditeurs de Radio Fiat Lux pourront continuer à écouter parce que peut-être que vous voulez réagir sur l'intervention d'Adrien.
Ben, allez-y. Okay. En fait, je suis quand même d'accord avec Adrien par rapport au vide. Ben moi, j'y vais plutôt avec la notion que la nature horreur du vide. C'est vrai qu'on a abandonné... Il y a une crise identitaire ici, une crise morale. Beaucoup de gens sont en quête d'une nouvelle morale, d'un nouveau code religieux quelconque. Je le vois dans mon entourage, je le vois chez certaines personnes qui pratiquent sous différentes formes. Beaucoup de gens vont se convertir. Ben, parmi le peu de gens que je connais en quête de sens, vont se convertir à l'islam. J'en ai vu quelques-uns. Mais bref, à court terme, pour moi, c'est pas une menace à cause de leur nombre présent actuellement dans notre société. Mais à long terme, si la tendance démographique se maintient, ça pourrait peut-être devenir une menace. Mais je pense que ça concerne davantage l'Europe actuellement. Même aux États-Unis, la population est assez restreinte de musulmans. Donc, pour moi, c'est pas ça la menace actuelle. Bref, mais faut garder l'œil ouvert là-dessus. Vous demeurez vigilant. C'est mon point de vue, mais sans s'alarmer d'une quelconque façon. Là.
Oui.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Luc. D'ailleurs, je mentionnais que c'était non pas à court terme, mais à moyen terme.
Ah oui.
Et évidemment, l'Occident, c'est aussi beaucoup l'Europe, et c'est surtout là que l'envahissement se fait. Ici, on est beaucoup moins touché. Mais c'est une question de temps, c'est-à-dire que ce que vit l'Europe actuellement, c'est notre avenir, je pense.
Martin, est-ce que tu veux réagir?
Oui.
Bien.
Et comme j'ai déjà dit dans le cours d'une autre émission ou débat qu'on avait fait, faut pas oublier que l'islam, ils ont 700 ans de retard sur nous autres. Dans le sens que Mohamed, il est né 700 ans après Jésus. Alors, si nous, on recule de 700 ans, 600-700 ans, on vit l'Inquisition espagnole, on a ce brave Borgia et ses indulgences qui est pape et qui vire le Vatican en bordel total. Bref, c'est pas très chic si on retourne de là 700 ans. Alors peut-être que dans 700 ans, eux aussi commenceront à abandonner un peu tout cela et ces dogmes-là.
Nos institutions démocratiques vont avoir le temps de disparaître.
On va tous être morts, là, entendons-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. J'essaie de faire la part des choses. Le problème, effectivement, comme le mentionnait M. Tantalor, c'est plus les imams puis toute l'espèce de. Eux, ils n'ont pas de séparation politique et religieuse. Hein? C'est pas mal plus le même paquet.
Ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs ici.
Et eux n'ont pas ça. Alors, je pense que le gros problème de l'islam présentement, c'est ça.
Oui.
Il y avait eu une tentative avant, si on se reporte au Shah d'Iran, des trucs comme ça, au Liban. Bon, il y a eu des pays où la séparation... Et là, je dis pas que le Shah d'Iran, c'était un bon gars. C'est pas ça que je veux dire du tout. Mais je veux dire, il y a déjà eu dans certains pays islamiques une certaine séparation de ces pouvoirs-là. Et je pense que si on a une chance d'améliorer la chose de ce côté-là, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il se fasse d'abord et avant tout. D'arrêter de mêler là, ces deux affaires-là. Mmh. Parce que là, c'est là que ça devient dangereux, parce que tu peux endoctriner ton monde, puis les tenir, puis après ça, tu as l'armée qui t'écoute, puis tu sais, tu as tout ça, là, ça fait un paquet. Là. Tandis qu'ici, bon, ben, c'est pas comme ça. Mais aux États-Unis non plus, même si, bon, ils sont plus religieux, là, il reste que je pense que le gros danger, c'est que cette séparation-là ne se fasse pas.
C'est ça, c'est la division du pouvoir entre les citoyens. C'est ça qui donne les libertés.
Et c'est ça que l'islam n'a pas.
C'est ce que la Grèce a institué, c'est la division du pouvoir entre les citoyens. Et c'est ça qui nous menace ou qui est menacé ici aussi. Est-ce que tu voulais réagir, l'homme qui a vu l'homme, sur l'islam?
Ben oui, moi, juste un petit mot, là, quoique je suis parfaitement d'accord avec le fait que l'islam est une menace à moyen terme, ou du moins l'islam, là... qu'on connaît aujourd'hui, là, qu'on voit monter, là, la version... là,
le pur et dur.
La version pur et dur. Mais moi, je pense qu'on est assez cave pour s'autodétruire avant qu'il y ait le temps de tous nous tuer.
J'approuve, je seconde.
C'est impossible.
Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur tout ça? On a fait le tour.
On a fait le tour.
C'est pas très positif pour le futur, mais effectivement, je pense qu'avant que l'islam nous menace, une comète a le temps de nous tomber dessus, ou un cataclysme environnemental, ou juste la poursuite du capitalisme, tout simplement. Alors, je remercie mes invités. Adrien Dugas, Martin Léveillé, Pierre-Luc Grenier, l'homme qui a vu l'homme. Merci à Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission, à David, notre libraire et hôte, à mon collaborateur, l'homme que vu l'homme, pour sa participation à la discussion aussi, pour la mise en onde, le choix des pièces musicales, et enfin à l'essentiel, Bicnic, qui nous héberge et nous diffuse sur son site Radio Fiat Lux depuis maintenant 4 ans, où vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie en podcast. C'était La Voix de la librairie à Québec.